Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, méditons quelques instants sur le bel évangile de ce quatrième dimanche de carême, tiré de l'apôtre Saint Jean, et qui relate la première multiplication des pains accomplie par notre Seigneur Jésus-Christ. On y trouve, d'ailleurs, nous verrons, tout un programme pour le carême. Prière, lecture, jeûne, préparation à la communion pascale. Nous sommes la deuxième année de la vie publique de notre Seigneur, juste après la décapitation de Saint Jean-Baptiste, martyrisé parce qu'il avait reproché sa vie immorale au roi Hérode. Aussitôt cette nouvelle, notre Seigneur part avec ses disciples, monte dans une barque, traverse le lac de Tibériade et se rend sur une montagne, dans un lieu solitaire, favorable à la prière. Ce n'est pas parce que notre Seigneur craignait la persécution, il est Dieu, il tient les événements et les cœurs des hommes dans sa main, mais son heure n'était pas encore arrivée, alors il préféra ne pas se montrer en public à cette heure difficile. Notre Seigneur va sur une montagne pour nous apprendre à nous retirer de l'agitation du monde, dit Saint Jean Chrysostome, en vue de prier et de méditer. Et c'est le premier enseignement de cet évangile. Profitons en effet du carême pour nous donner davantage à la prière. Et d'abord nous interroger, d'abord, combien de temps donnons-nous à la prière chaque jour? Est-ce vraiment sérieux? Ensuite, sur la manière dont nous prions. Le grand danger dans la prière, c'est la récitation mécanique. Allons au contraire à la prière comme un rendez-vous avec quelqu'un qui nous attend, avec notre Seigneur, notre Dame qui nous attendent. Et donc, avant même de prier, mettons-nous en présence de notre Seigneur, de notre Dame. Et que notre prière consiste dans la récitation de formules, dans la méditation sur un point de notre religion ou la contemplation des mystères de notre foi, et bien que la prière soit toujours, comme le dit Sainte Thérèse d'Avila, une conversation intime de notre âme avec Dieu dont nous nous savons aimer. Une conversation, pas une récitation mécanique. Une grande foule suivait Jésus, continue l'Évangile. On ne parle pas de pharisiens, donc ce devait être les gens simples, les gens du peuple, les hommes, les femmes, les enfants venus des villes alentour qui avaient entendu parler que notre Seigneur était là. Ne nous faisons pas trop d'illusions sur les motifs qui les font venir à Jésus. L'Évangile nous dit qu'il venait surtout à cause des miracles qu'il faisait sur les malades. Il faudra d'ailleurs attendre la Pentecôte pour que les âmes s'ouvrent davantage à la grâce, à la vérité. Saint Matthieu et Saint Marc disent que notre Seigneur eut pitié de cette foule, parce qu'ils étaient comme des brebis sans pasteur. Pourtant, on peut dire, ils avaient des prêtres, ils avaient des scribes que Dieu leur avait donné, c'était l'Église de l'époque, Dieu leur avait donné pour les guider. Mais ceux-ci avaient perverti le sens des Écritures, il leur avait donné une signification purement terrestre. Ils attendaient un Messie temporel qui les délivrerait des Romains et leur ferait dominer le monde entier. Et donc, finalement, ils n'étaient d'aucune utilité pour les âmes. Et ne peut-on dire aujourd'hui la même chose vis-à-vis du peuple chrétien? Depuis le Concile Vatican II, les hommes d'Église n'enseignent plus la vraie foi. Ils ne communiquent plus la grâce parce qu'ils n'y croient plus. Ils n'ont plus qu'un langage naturel. Les discours des évêques ne parlent que de solidarité, de partage, immigration, écologie, que sais-je. Le pape François a même fait une encyclique, sur le réchauffement climatique et le développement durable. Sur le salut des âmes, rien. Et pendant ce temps, l'Église conciliaire s'effondre dans les scandales et le monde sans pasteur dérive complètement. Il est important de voir comment notre Seigneur, voyant cette foule, ayant pitié d'elle, comment il exerce principalement sa miséricorde. Ayant accueilli cette foule, disent les évangiles, il se mit à les instruire longuement, il leur parlait du règne de Dieu. La première œuvre de miséricorde, en effet, est une miséricorde spirituelle. Enseigner les ignorants, c'est la charité de la vérité, c'est la première charité. Ce dont les hommes ont d'abord besoin, c'est de donner un sens à leur vie, de savoir pourquoi ils sont sur terre, par quels moyens ils peuvent être sauvés, arriver à la vie éternelle. C'est pourquoi l'apôtre saint Paul écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'Évangile. Et si, sans aucun mérite de notre part, bien sûr, nous avons gardé la vraie foi catholique, la seule qui conduit au salut, pensons qu'en même temps, cela nous donne des devoirs. Devoirs d'abord de la conserver au milieu de l'apostasie actuelle. Donc que ce carême aussi nous convainque de la nécessité de prendre du temps régulièrement pour la lecture religieuse afin d'approfondir notre foi. Par exemple, le dimanche, un peu de lecture religieuse pour sanctifier la journée. Devoir aussi de faire rayonner cette foi autour de nous, ce trésor, ce n'est pas seulement pour nous qu'il a été donné. C'est pour que nous en fassions profiter d'autres. Et d'abord, pour les parents, c'est leurs enfants. Le premier devoir des parents, c'est de transmettre la foi à leurs enfants et de donner des convictions à leurs enfants. Quand ils commencent à réfléchir, à avoir un certain âge, leur expliquer pourquoi nous ne vivons pas comme les gens qui n'ont pas la foi, pourquoi nous ne devons pas aller à la nouvelle messe, etc. Et si nous ne leur donnons pas ces convictions, ils ne persévéreront pas. Et comment transmettront-ils ensuite le flambeau à leurs enfants? Et puis, il y a aussi l'apostolat extérieur, en dehors de la famille. Premièrement, et d'abord et avant tout, par l'exemple. Parce que la manière dont nous vivons est la première conséquence de notre foi. La parole n'est pas toujours possible, mais l'exemple, il est toujours possible. C'est la première prédication. Mais attention, que l'influence des chrétiens peut être nulle si par respect humain, si parce qu'ils sont trop attirés par la manière de vivre des gens du monde, finalement, il n'y a plus beaucoup de différence entre ceux qui ont la foi et ceux qui ne l'ont pas dans la manière de vivre. Et hélas, n'est-ce pas le fait aujourd'hui de beaucoup de catholiques? Mais cela est dangereux, parce que si nous ne vivons pas comme nous pensons, comme le dit l'adage, nous finirons par penser comme nous vivons. Et c'est l'explication de l'apostasie actuelle de tant de catholiques. Or, comme le jour commençait à baisser, écrit saint Luc, les 12 s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Congédiez la foule afin qu'ils aillent dans les bourgs et les hameaux des environs pour trouver un gîte et de la nourriture, car nous sommes ici dans un endroit désert. » Les apôtres n'apprenaient rien à notre Seigneur, il est Dieu, il le savait bien. C'est volontairement que notre Seigneur avait laissé passer le temps. Et tout d'abord, pour apprendre à cette foule à pratiquer la pénitence. Il y avait des heures maintenant qu'ils n'avaient pas mangé. En effet, il n'y a pas de vie chrétienne sans esprit de pénitence. Et la préface du carême que vous entendrez tout à l'heure, nous rappellera les quatre fruits de la pénitence. Le jeûne, dit la préface, réprime les vices, élève les âmes, donne la force de ne pas pécher et nous obtient la récompense éternelle. Si l'observance du carême venait un jour à se relâcher, disait le pape Benoît XIV avant la Révolution, au XVIIIe siècle, une telle négligence deviendrait une source de malheur pour les peuples, de désastre dans les affaires publiques et d'infortune pour les individus. Et n'est-ce pas ce que l'on constate aujourd'hui dans notre monde où plus personne ne fait pénitence? Mais si notre Seigneur a entraîné cette foule dans ce lieu désert, ce n'est pas seulement pour lui apprendre à se retirer loin de l'agitation du monde, à certains moments au moins, lui apprendre à exercer la pénitence, mais c'était aussi pour les préparer à l'un de ces miracles si chargés de signification que notre Seigneur le renouvellera un an plus tard. Mais pour que ce miracle soit clair aux yeux de tous et d'abord aux de ses disciples, notre Seigneur veilla à leur faire constater l'impossibilité absolue de nourrir une telle foule avec le peu de moyens qu'ils avaient. Où pourrions-nous acheter du pain pour que ces gens aient à manger, dit Jésus à Philippe. Jésus disait cela pour l'éprouver, commente saint Jean, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. 200 deniers de pain ne suffiraient pas pour que chacun en ait un petit morceau, répondit Philippe. Alors, un denier, c'était un jour de travail d'un ouvrier. 200 deniers, ça fait 200 jours de travail, c'est pas mal. Mais pour nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, ça fait peut-être entre 10 et 15 000 personnes, même 200 deniers, c'est totalement impossible. Et de toute façon, les apôtres n'avaient pas 200 deniers dans leur bourse. Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 petits poissons, dit André. Mais qu'est-ce que cela pourtant demande? C'est encore pire. Alors Jésus dit à la foule de s'asseoir. Il prit les pains, il rendit grâce, il les fit distribuer, de même pour les poissons. Et chacun put manger autant qu'il voulait. Et il resta encore 12 gros paniers de reste. Le miracle était évident, spectaculaire. Notre Seigneur avait créé de la matière, il avait créé des pains, créé des poissons, par lui-même. Seul celui qui a créé le ciel et la terre peut faire un tel miracle par lui-même. Cette multiplication des pains, avec ses milliers de témoins, était une preuve certaine, évidente, de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est la première leçon de ce miracle. Mais il y en a une deuxième. En multipliant miraculeusement les pains pour cette foule affamée, notre Seigneur pensait à un autre miracle, beaucoup plus important. Le miracle du pain et du vin transformé en sa chair et en son sang à chaque messe et qui serait la nourriture des âmes jusqu'à la fin du monde. La multiplication des pains annonce l'institution de la Sainte Eucharistie par notre Seigneur. En lisant le récit de ce miracle dans les 4 évangiles, on retrouve d'ailleurs plusieurs paroles qui figurent dans la consécration du corps de notre Seigneur à la messe. C'est impressionnant, écoutez. Levant les yeux au ciel, Jésus rendit grâce, bénit le pain, le rompit et le donna à ses disciples. C'est clair, ce miracle est l'annonce de la Sainte Eucharistie, c'est évident. Et c'est pour cela que notre Seigneur l'a accompli avant la fête de Pâques et qu'il le renouvellera un an plus tard, avant la fête de Pâques encore, parce que notre Seigneur a institué la Sainte Eucharistie à la veille de sa passion. La Sainte Eucharistie est le sacrement de la passion du Christ, dit saint Thomas d'Aquin. Renouvelant le sacrifice de notre Seigneur de manière non sanglante sur l'autel pour nous en appliquer les fruits aujourd'hui. L'Eucharistie est le fruit du sacrifice, aimait à répéter souvent Monseigneur Lefebvre. Le fruit du sacrifice qui nous est donné en nourriture pour que nous ayons la force de continuer à porter notre croix chaque jour derrière notre Seigneur pour aller jusqu'au ciel. Notons aussi comment notre Seigneur a voulu préparer cette foule à ce miracle. Il les a entraînés loin de l'agitation du monde, Il les a enseignés longuement, il les a fait jeûner et il a guéri leurs malades, les délivrant du péché en même temps qu'il guérissait leur corps, comme toujours. Et tout le programme de notre carême est là. Prière, étude des enseignements de notre Seigneur par la lecture religieuse, jeûne, confession de nos péchés pour nous préparer à faire une bonne communion à Pâques. Et bien que ce quatrième dimanche de carême nous aide à bien continuer ce temps de pénitence pour passer de sainte fête de Pâques, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.